Chapitre 1. La nuit où tout commença. Nous devons nous y habituer. Aux plus importantes croisées des chemins de notre vie, il n'y a pas de signalisation. Ernest Hemingway. Décembre 2006. C'est le soir de Noël, au cœur de Manhattan. La neige tombe sans relâche depuis le matin. Engourdie par le froid, la ville qui ne dort jamais semble tourner au ralenti, malgré une débauche d'illumination. Pour un soir de réveillon, la circulation est étonnamment fluide. La couche de poudreuse et les épaisses congères rendant difficile le moindre déplacement. À l'angle de Madison Avenue et de la 36e rue, les limousines se succèdent pourtant à un rythme soutenu. Elles déversent leurs occupants sur le parvis d'une belle demeure de style Renaissance, siège de la Morgan Library, l'une des plus prestigieuses fondations culturelles de New York, qui fête aujourd'hui son centenaire. Sur le grand escalier, c'est un tourbillon de smoking, de robes somptueuses, de fourrures et de bijoux. La foule converge vers un pavillon de verre et d'acier qui prolonge le bâtiment pour l'ancrer de façon harmonieuse dans le 21e siècle. Au dernier étage, un long corridor mène à une vaste pièce où, derrière des vitrines, sont exposés quelques-uns des trésors de l'institution. Une Bible de Gutenberg, des manuscrits enluminés du Moyen-Âge, des dessins de Rembrandt, Léonard de Vinci et Van Gogh, des lettres de Voltaire et d'Einstein, et même un bout de nappe en papier sur lequel Bob Dylan a écrit les paroles de « Blowing in the Wind ». Progressivement, le silence se fait. Les retardataires gagnent leur siège. Ce soir, une partie de la salle de lecture a été spécialement aménagée pour permettre à quelques privilégiés d'entendre la violoniste Nicole Hathaway interpréter des sonates de Mozart et de Brahms. La musicienne entre en scène sous les applaudissements. C'est une jeune femme d'une trentaine d'années, à l'allure chic et sage. Son chignon à la Grace Kelly lui donne des airs d'héroïne hitchcockienne. Acclamée sur les scènes internationales, elle a joué avec les plus grands orchestres et, dès son premier disque enregistré lorsqu'elle avait 16 ans, reçu d'innombrables récompenses. 5 ans plus tôt, un drame a dévasté sa vie. La presse et la télévision s'en sont fait largement l'écho, et, depuis, sa notoriété a dépassé le cercle des seuls mélomanes. Nicole salue son public et place son instrument. Sa beauté classique s'accorde parfaitement à l'élégante demeure patricienne, comme si la violoniste prenait naturellement sa place parmi les gravures antiques et les manuscrits de la Renaissance. D'une attaque franche et profonde, son archet trouve immédiatement le dialogue avec les cordes, et le maintiendra pendant toute la durée de la prestation. Dehors, la neige continue à tomber dans la nuit froide. Mais ici, tout n'est que confort, luxe et raffinement. À moins de 500 mètres de là, non loin de la station de métro de Grand Central, une plaque d'égout se soulève lentement, laissant émerger une tête hirsute, au regard vide, au visage abîmé par les coups. Après avoir libéré le labrador aux poils noirs qu'il portait dans ses bras, un homme se hisse avec difficulté sur le trottoir enneigé. Il traverse la rue, zigzagant sur la chaussée et manquant de se faire écraser au milieu d'un concert de klaxons. Maigre et affaibli, le SDF porte un manteau sale et élimé. Lorsqu'il croise des passants, ceux-ci pressent le pas et, instinctivement, s'écartent. C'est normal. Il sait qu'il fait peur, qu'il sent la crasse, la pisse et la sueur. Il n'a que 35 ans, mais en paraît 50. Autrefois, il a eu un travail, une femme, un enfant et une maison. Mais c'était il y a longtemps. Aujourd'hui, il n'est plus qu'une ombre errante, un fantôme enveloppé de chiffons qui marmonne des propos incohérents. Il tient difficilement debout, se traîne plus qu'il ne marche, vacille.
Quel jour sommes-nous? Quelle heure? Quel mois?
Il ne sait plus. Dans sa tête, tout se mélange. Devant ses yeux, les lumières de la ville semblent se diluer. Les flocons glacés portés par le vent lacèrent son visage comme des coups de cutter. Ses pieds sont gelés, son estomac douloureux, ses os prêts à se rompre. 2 ans déjà qu'il a quitté la société des hommes pour se terrer dans les entrailles de la ville. Comme des milliers d'autres SDF, il a trouvé asile dans les boyaux du métro, des égouts et du système ferroviaire. Que les honnêtes citoyens et les touristes se rassurent. La politique de tolérance zéro prônée par la municipalité a porté ses fruits, nettoyant consciencieusement Manhattan en surface. Mais sous les gratte-ciel flamboyants, vibre une ville parallèle. Un New York d'épaves humaines qui irrigue un vaste réseau de tunnels, de niches et de cavités. Des milliers d'hommes taupes, rejetés dans les bas-fonds, fuient la répression policière, coincés dans des tunnels crasseux au milieu des rats et des excréments. C'est ainsi. L'homme fouille dans sa poche pour ressortir une bouteille de mauvais alcool. Bien sûr qu'il boit. Comment faire autrement? Une rasade, puis encore une autre. Pour oublier le froid, la peur, la saleté. Pour oublier sa vie d'avant. Dernier coup d'archer de Nicolas Taouet. Le temps de deux mesures, un silence recueilli plane au-dessus de l'assistance. Ce fameux silence qui suit du Mozart, censé être encore du Mozart, est bientôt chassé par des applaudissements nourris. La violoniste incline la tête, accepte un bouquet de fleurs, puis traverse la pièce pour recevoir des congratulations sans fin. Les invités ont beau être enthousiastes, Nicole sait bien que sa prestation n'a pas été grandiose. Elle a joué ses sonates avec une technique parfaite, une pureté de laser et beaucoup de vigueur. Mais pas avec ses tripes. Absente, elle serre mécaniquement quelques mains, trempe ses lèvres dans une coupe de champagne et, déjà, cherche à s'éclipser. « Tu veux qu'on rentre, chérie ?» Elle se tourne lentement vers cette voix rassurante. Eric, son compagnon, se tient devant elle, un verre de martini à la main. Cet avocat d'affaires partage plus ou moins sa vie depuis quelques mois. Toujours prévenant, il a su être là pour elle à un moment où elle en avait besoin. « Oui, j'ai la tête qui tourne. Ramène-moi à la maison. » Anticipant sa réponse, il s'est déjà précipité au vestiaire et lui tend un manteau de flanelle grise qu'elle enfile avant de resserrer son col. Après un rapide adieu à leurs hôtes, ils descendent l'imposant escalier de marbre, tandis qu'à l'étage, la fête commence à peine à battre son plein. « Je t'appelle un taxi, » propose Eric, en arrivant dans le hall d'entrée. « Je vais récupérer ma voiture au bureau et je te rejoins. »« Je t'accompagne, il y en a à peine pour 5 minutes. »«
Tu plaisantes ? Il fait un temps de chien. »«
J'ai besoin de marcher et de respirer un peu d'air frais. »
« Mais ça peut être dangereux !»«
Depuis quand c'est dangereux de faire 300 mètres à pied ? Et puis tu es là ?»«
Comme tu voudras. »
Ils sortent sur le trottoir en silence et regagnent la 5e avenue en marchant d'un pas vif dans le froid mordant. La circulation est toujours aussi réduite. La neige continue à s'entasser sur la ville en flocons lourds et silencieux. À présent, la voiture n'est plus qu'à 100 mètres, juste derrière Bryant Park. Pendant les beaux jours, cet endroit offre une agréable enclave de verdure, idéale pour une escale au soleil, un pique-nique ou une partie d'échecs près de la fontaine. Mais ce soir, l'endroit est sinistre, plongé dans le noir, désert.
Ton fric !
Nicole pousse un cri bref. Une lame vient de jaillir devant ses yeux, brillante comme un éclair.
Ton fric, je te dis !
Ordonne le type au couteau. C'est un homme sans âge, tout en épaisseur et en puissance. Son crâne rasé émerge d'un coupe-vent sombre qui lui descend jusqu'aux genoux. Son visage, troué de deux yeux minuscules animés d'une lueur démente, est fendu dans toute sa longueur par une cicatrice boursouflée.
« Plus vite !»«
Ok, ok !» capitule Eric en sortant son portefeuille et en tendant de lui-même sa Breitling et son téléphone portable.
L'homme s'en empare, puis se rapproche de Nicole pour lui arracher son sac et l'étui de son violon. La musicienne tente de cacher son anxiété, mais elle est incapable d'affronter le regard de son agresseur et ne peut faire autrement que de fermer les yeux. Tandis qu'une main lui arrache son collier de perles, elle se récite mentalement l'alphabet à l'envers, très vite, comme elle le faisait enfant, pour dominer ses peurs.
Z, Y, X, W, V, U.
C'est tout ce qu'elle a trouvé pour fixer son attention sur quelque chose, en attendant que ce moment ne soit plus qu'un mauvais souvenir.